Bonjour tout le monde, bienvenue à la 10e épisode de la French Connection. Aujourd'hui avec moi, j'ai Richer. Salut Richer.
Salut.
J'ai aussi Nicolas, Loïc. Salut Nick.
Salut.
Et Damien. Salut Damien.
Bonjour la France.
Hello, hello. Donc, aujourd'hui, plusieurs nouvelles Europe locale et aussi un petit peu d'international avec du côté de Richer. On va commencer avec une première nouvelle du côté de Richer. On t'écoute.
OK, oui, donc, dans le fond, il y a un dans les histoires qu'on voit présentement avec les ransomware qui attaquent les applications bancaires sur les téléphones et autres, il y a un nouveau trojan qui a été découvert dernièrement qui attaque les applications qui sont aussi non bancaires, donc mettant qui demandent un paiement par carte. Donc ça touche plusieurs applications comme entre autres le Android Pay. Ce que ça fait grossièrement, c'est que ça enregistre les conversations téléphoniques quand ça détecte qu'il y a un certain téléphone qui est reçu ou appelé. Ça capture les SMS pour les tokens. Et aussi, ça ajoute une couche supérieure, un overlay sur l'écran quand il détecte que une certaine application est ouverte pour pouvoir être capable de faire une capture des informations, des mots de passe, ces choses-là directement à partir de l'écran en passant ça par-dessus. Donc, ça paraît pas, puis on se fait voler nos informations. Ce trojan-là s'appelle le fake token et donc ça a été découvert dernièrement par Kaspersky.
Yes, puis moi, la seule chose que je me demandais quand j'ai vu ce nouveau banking trojan, me semble que c'est pas si nouveau si on oublie la partie des tokens par SMS. Je sais pas, Damien, avais-tu déjà vu ça avant?
Il y en a eu déjà des applications dans ce type-là, mais ce qui est intéressant, c'est que les mises à jour sont très clairement de plus en plus pointues. Alors moi, je vais être honnête avec vous. Moi, à la maison, j'ai deux filles qui sont super efficaces pour récupérer les données bancaires, surtout celles de papa et de maman. Mais côté application, vu que les codes sources maintenant sont vendus dans le black market, voire même certains distribués carrément à l'œil comme ça sur GitHub, ça va évoluer et ça va évoluer aussi dans le principe où beaucoup de gens maintenant ont des téléphones aussi qui sont débridés, qui peuvent être utilisés n'importe comment, et ça télécharge aussi n'importe comment, donc les pièges ne pourront qu'être exponentiels et super efficaces.
Exact, très bon point, puis c'est effectivement l'endroit où ce qu'il va y avoir de plus en plus au niveau des banques, des transferts d'argent, c'est sur cellulaire, tout transfert là-dessus, donc pas surprenant, mais en même temps, effectivement, si nouveau, mais le nombre de vols qui va se faire à ce niveau-là va être assez intense. Richer, une autre nouvelle en lien en ça, en fait, là, le iOS qui rajoute une fonction anti-phishing.
Oui, donc Gmail a ajouté une fonction qui c'est pas global encore, donc c'est pas globalement utilisé, mais il a ajouté une fonction pour les iOS, les iPhones entre autres, d'anti-phishing qui va pouvoir prévenir si un lien est déclaré suspect, donc s'il est il pointe sur un domaine qui est qui est pas de confiance finalement, et donc ça va pouvoir empêcher les gens de cliquer sur des liens par inadvertance pour se faire rediriger vers des sites qu'ils voudraient pas nécessairement. Donc, c'est une belle approche parce qu'on a déjà, quelques trucs qu'on fait au niveau d'un PC ou d'un ordinateur en général, qu'on regarde le lien, on fait la souris par-dessus pour essayer de voir si le lien pointe bien à la bonne place. Mais sur téléphone, c'est un petit peu plus difficile, donc c'est pas impossible, mais c'est juste moins... ça arrive moins souvent qu'on fasse ça. Et donc, c'est une belle approche qui est faite pour pouvoir protéger. Donc, ça va pouvoir se faire prochainement. Ils vont pouvoir ajouter cette fonctionnalité-là d'ici 2 semaines, ils disaient ça. Donc, c'était le 14 que j'avais vu la nouvelle. Donc, d'ici 2 semaines, on pourrait compter vers le mois de septembre environ qu'il devrait avoir cette fonctionnalité-là qui devrait être pour tous.
Excellent. Dans le même genre d'idée, ce que je vois beaucoup en entreprise aussi récemment et certains de nos clients vont utiliser le concept que chaque courriel qui entre dans votre boîte de courrier a une mention officielle dans le haut si le courriel provient de l'interne ou de l'externe. Donc, toute tentative de phishing avec des noms de domaine très, très, très similaires, ben, ça va écrire en gros gras rouge courrier externe. Donc, en voyant ça, que c'est externe, puis qu'on croit que c'est un courriel interne de dire « va cliquer à tel endroit », etc., c'est une bonne technique pour empêcher le phishing à l'intérieur d'une entreprise.
Ça fonctionne comment, ça, cette implantation-là?
J'ai pas le détail officiel de comment qu'ils le font, mais c'est basé sur le nom de domaine. Donc, techniquement, ça certifie que le courriel a été envoyé par la passerelle SMTP ou autre de l'entreprise en tant que telle. Il faut effectivement que ce soit...
Fait qu'il ferait du rewrite au niveau de la passerelle, c'est ça?
Je pense bien que oui, mais il faut que ce soit implémenté d'une manière que, effectivement, personne d'autre puisse y accéder sans être authentifié au niveau de la passerelle de courriel. Évidemment, si on se fait voler nos user passwords, ben là, on peut utiliser le courriel de quelqu'un pour faire du phishing interne, mais en provenance de domaine externe, c'est un très bon moyen, là.
Bah, c'est pas négligeable, hein, parce que le public, qu'il soit pas du tout connaisseur informatique ou qu'il utilise pour le boulot, il a besoin d'énormes messages devant les yeux pour comprendre qu'il doit pas cliquer. Donc là, l'outil est loin d'être négligeable, hein, c'est plutôt sympa.
Oui, hein. Puis c'est intéressant dans le sens que, justement, une personne qui travaille aucunement en sécurité, même en informatique, son visuel ou le point pour comprendre qu'elle se fait piéger ou pas est très important. Puis je disais, même avec la sensibilisation, que vous ayez des formations, des trainings, des courriels expliquant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, on va toujours avoir un gros pourcentage que soit qu'ils liront pas ou qu'ils vont l'oublier, parce qu'il faut toujours rappeler à tout le monde. Donc, avoir ce type d'outil-là, c'est très intéressant. Puis l'autre logiciel, partie de code intéressant aussi, c'est un bouton dans Outlook qui dit « ceci est un phishing » puis ça le rapporte direct à l'équipe de sécurité. Je vois ça de plus en plus aussi, puis c'est vraiment quelque chose qui peut aider énormément au lieu d'appeler le helpdesk puis que ça prenne une journée à rediriger l'information au bon endroit. Pèse sur le bouton « est-ce que c'est un phishing? » L'équipe de sécurité l'analyse. Donc, on continue avec une autre nouvelle, la dernière de ton côté, Richer, les serrures intelligentes qui tombent en panne. Je trouve ça très intéressant.
Oui, c'est dans le fond, il y a une série de serrures intelligentes qui se connectent aux autres de la compagnie Lockstate, que eux sont, il y en a certaines qui se connectent directement sur le Wi-Fi de la maison pour être capable de recevoir des updates, ces choses-là. Et donc ils ont reçu un update de firmware qui avait un problème dedans, et ce qui a fait en sorte que le panneau d'avant pour pouvoir débarrer la porte était inaccessible, donc il n'était pas utilisable. Ça a juste rendu la serrure pas utilisable du tout. Donc, il n'était pas capable de pouvoir débarrer de l'extérieur. Donc, c'est quand même un problème rendu là. Avec quand tu veux pouvoir l'utiliser pour plusieurs choses, ce genre de serrure-là étant utilisé aussi pour les Airbnb, les gens peuvent simplement donner des codes aux personnes sans avoir besoin de donner des clés physiques pour pouvoir accéder à des endroits. Donc, ça peut causer un problème. Donc, ceux qui ont été listés, il y avait la compagnie en tant que telle, ont reçu comme quoi il y en avait à peu près 500 qui étaient problématiques, parce qu'en réalité, ce que ça faisait, c'est qu'après ça, ils voulaient être capables de pouvoir remettre un update dessus, mais ils n'étaient plus capables de communiquer avec le serveur par la suite. Donc, il était même plus capable de pouvoir... il était briqué, là, essentiellement. Donc, il n'était pas capable de pouvoir le replacer ou même le refaire. Donc, ça a besoin d'avoir un accès physique pour le faire manuellement. Donc, il a besoin de pouvoir retourner ça à la compagnie qui peut prendre de 5 à 7 jours ou avoir un remplacement qui peut prendre de 14 à 18 jours. Donc, dans les deux cas, c'est pas l'idéal, mais au moins, la compagnie va payer les frais de transport, ce qui est déjà au moins une bonne chose, c'est un minimum, je pense. Et puis, après ça, ils vont pouvoir s'occuper de pouvoir... Ils donnent une subscription qui est normalement payante pendant un an, tous ceux qui ont été affectés. Ils calculaient qu'il y en avait à peu près 500 là, qui avaient été affectés avec ce problème-là. Donc, c'est sûr que c'est possible qu'il y en ait plus que ça, qui vont se déclarer par la suite, comme à toute fois, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui arrivent, pardon. Et donc, c'est intéressant du fait que plus on a de fonctionnalités sur nos petits trucs, plus il y a des chances que ça peut planter. Donc, ça revient toujours au même, là, les IoT avec les connexions directement à Internet, quand ça se fait tout seul. Trop d'automatisation, des fois, c'est pas nécessairement une bonne chose.
C'est pas faux, ça.
Ah, ça fait des belles serrures avec des clés qui fonctionnent. C'est ça la différence avec l'IoT. On va toujours se retrouver dans une certaine situation qui peut compliquer les choses plus que d'autres choses. Une mise à jour d'une serrure, si on avait dit ça le 20 ans, on aurait tout ri.
Effectivement, on se serait demandé à quoi... mais quel genre d'histoire qu'on parle de là, mais non, aujourd'hui, c'est une réalité.
Passons du côté à Damien, en Europe, dans ta nouvelle locale. Les opérateurs français qui doivent patcher les box Wi-Fi.
Et pas qu'un peu. Hein. C'est la semaine dernière, c'est deux grands opérateurs téléphoniques qui sont SFR et Orange, qui se sont retrouvés en fait avec une faille qui à première vue existait depuis plusieurs mois. En gros, c'est quoi? Sur nos box, on a le fameux bouton WPS. Hein, vous cliquez dessus, ça se connecte avec votre télévision, votre console, ce que vous voulez. Sauf qu'il s'est avéré que sur certaines de ces marques de box, eh bien le WPS, il était en blanc. Ça veut dire qu'on passait dans la rue avec un logiciel, avec un petit Linux qui va bien, et ça interceptait quoi? Eh bien, tout simplement, la clé WPA. Bizarrement, personne n'en parlait. Il y avait eu quelques petites rumeurs à droite à gauche sur Internet, et là, il s'est avéré que ça a commencé à faire paniquer pas mal de gens, parce que pouvoir récupérer les clés WPA en claquant du doigt et de la souris, c'était simple comme chou. J'ai fait quelques démonstrations en une petite, allez, on va dire une petite dizaine d'heures, les clés WPA tombaient, mais comme neige, en hiver, au Québec. Il y en avait partout. Donc du coup, les opérateurs ont été alertés. Ça se corrige, c'est en cours de correction. Au moins, l'important, c'est comme on dit, hein, c'est informer pour mieux sécuriser. Ça, c'était la partie box. Alors moi, c'est intéressant, c'est que là, on parlait des serrures et des objets connectés. Je voudrais vous faire écouter, j'ai une nouvelle petite amie à la maison. Elle s'appelle Google Home. Et je pense que c'est comme la sécurité en général, si on n'y prête pas garde, ça répond à peu près ça. Ok Google, comment protèges-tu ma sécurité sur Internet ?
Excusez-moi, je ne comprends pas.
Voilà, alors c'est le principe de tous ces objets connectés. Si on lit pas le mode d'emploi et la notice, on se retrouve avec du matériel qui tombera en panne, qui va nous piéger. Et comme aujourd'hui, c'est du click and hack, c'est tellement facile de se retrouver avec un problème. Et chez nous, les box, hein, elles font tout. Hein. Elles font télévision, téléphone, Internet. Donc imaginez les clés WPA dans des mains, comme on dit, malfaisantes.
Excellent. Oh, le super home, c'est un autre des choses très intéressantes pour la vie privée, puis pas juste la vie privée, la sécurité aussi. Il y avait un meme sur Internet que j'ai bien aimé récemment, qui était une photo du son dans les années 60 qui parle au téléphone, qui dit « Ah, je peux pas vraiment te dire telle chose, c'est confidentiel, il y a sûrement quelqu'un qui nous écoute. » Puis là, t'as la même image, mais aujourd'hui avec le Google Home ou Amazon Alexa, puis la personne, il demande les recettes sur Internet, puis la NSA écoute de l'autre côté. J'aime bien le concept de la petite boîte qui espionne tout le monde volontairement, là.
Puis surtout, cette petite boîte, elle est rigolote, hein, parce que bien sûr, quand je dis « Ok Google, est-ce que tu m'aimes ?»
Aucun contenu n'est en cours de lecture.
Ce qui est dommage, mais toujours est-il que ce que je viens de dire est enregistré sur Internet, est enregistré donc dans la partie Google Home de mon téléphone portable ou alors d'autres systèmes qui permettent d'être interceptés si jamais je fais pas gaffe à mon login et mon mot de passe, par exemple. Ça intercepte tout ce que je raconte, tout ce que je dis. Là, je vais lui dire « Tais-toi, ok Google, stop !» parce que sinon elle continue d'enregistrer tout ce qu'on dit. C'est super comme outil, mais vraiment, il faut vraiment, vraiment, vraiment réfléchir à sa sécurité au sein de la maison, faire comprendre aux enfants qu'on ne doit pas tout dire, on ne doit pas tout lui faire enregistrer, etc., etc. C'est des super outils, mais franchement, je ne suis pas sûr que les gens soient éduqués pour comprendre qu'un outil, ça se maîtrise,
ouais,
et c'est pas le contraire.
Ils ont même réussi à résoudre un crime avec, je pense que c'était Google Home ou celui d'Amazon, qui a enregistré une conversation pendant un certain meurtre, et ils ont été capables d'utiliser ça en cours pour prouver que la personne l'avait vraiment fait avec tout ce qui avait été enregistré. Donc, ça peut avoir des conséquences assez énormes au niveau de la vie privée, là.
Ah bah, vie privée, mais aussi vie professionnelle. Vous mettez ça dans un bureau, et avant de partir, vous faites « OK Google », et il continue d'enregistrer. Donc, comme il continue d'enregistrer, après, moi, je peux éventuellement écouter plus tard ce qui a été dit dans le bureau. Donc, vraiment prudence.
Ouais, ouais, bon point. Ça peut être utilisé même volontairement, comme tu l'expliques. Autre nouvelle, les règlements européens des données privées de la CNIL.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Chez nous, en France, hein, c'est la RGPD. C'est géré par la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté. Je crois qu'à Québec et au Canada, c'est le commissariat à la protection de la vie privée hein, qui va s'en intéresser. Et nous, ce qui est intéressant, c'est que notre CNIL est en train de faire comprendre aux entreprises qu'il va falloir réfléchir très sérieusement à la protection de nos données, nous, utilisateurs, nous, clients. Parce qu'à partir de fin mai 2018, chez nous, donc la RGPD rentre en fonction, en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute entreprise qui aura une fuite de données, une perte de données, une lecture de données par des personnes non autorisées, un piratage aussi bien sûr, devra alerter donc ses clients, donc chez nous c'est avec un courrier recommandé, donc c'est un véritable coût, prévenir la CNIL, bien sûr il y a la communication obligatoire, donc tout ça fait que bah, la CNIL est en train de mettre des actions de communication plus ou moins fortes pour bien faire comprendre aux entreprises que ça risque de coûter très très cher à partir de fin mai. Et là, bah, le mois dernier, il y a deux sociétés qui ont été, on va dire entre guillemets, punies. La première, c'était côté façon publique, hein, voilà, on lui tape sur les doigts parce qu'elle n'a pas bien protégé les données de ses clients. Et la deuxième, c'est une société internationale, c'est Hertz, qui pour la première fois en France se retrouvait avec une amende de 40 000 euros, donc c'est aux alentours de 59 000 dollars canadiens, et bien tout simplement parce qu'elle n'a pas bien protégé les données. Alors ces deux infos m'ont particulièrement plu. Pourquoi? Parce que c'est des protocoles d'alerte de Zataz qui ont permis à la CNIL donc d'agir. Et juste pour info, hein, les deux failles étaient aussi idiotes que moi devant une poutine. C'est qu'il suffisait de changer les numéros des idées, hein, des identités des personnes qui s'y connectaient pour avoir accès aux autres dossiers des clients. Donc en plus, ça c'est une faille qu'un enfant de 15 ans est capable de repérer. Alors des professionnels de l'informatique, normalement, ça ils doivent le voir. Vous le voyez pas, et vous inquiétez pas, la CNIL va le voir et la punition risque d'être vraiment sévère.
Ce type de problème-là, d'avoir accès directement à des objets autres ou sans autorisation, c'est une des vulnérabilités qu'on retrouve le plus au niveau des bug bounty, puis même des tests d'intrusion qu'on effectue. La plupart des méga failles internet, pas méga failles mais méga leaks, ont aussi un lien souvent avec ce type de vulnérabilité-là au Canada. C'est un exemple qu'on donne régulièrement, mais Passport Canada avait déjà eu ce problème-là. Tu t'authentifiais, tu avais ID égal à 1, tu changes ID pour égal à 2, puis tu avais les données de passeport de quelqu'un d'autre. Ils ont réussi à retracer que ce code-là est en ligne depuis environ 6 à 7 ans avant sa découverte de ce type-là. Donc, imaginez le nombre de personnes que peut-être ont trouvé ça avant. Ça peut être assez intense là, comme type de vulnérabilité.
Ouais, c'est dramatique parce qu'effectivement, on ne sait pas qui a pu y avoir accès avant. Et surtout, c'est tellement simple. Un petit code en Python et vas-y que je t'égrène une par une des possibilités avec en plus des données qui peuvent être très sensibles. Donc, bah, la CNIL, là, voilà, elle a tapé un grand coup sur la table. Et bah, je vais être très clair, hein, elle va continuer à le faire jusqu'au mois de mai parce que je pense que les entreprises maintenant devraient comprendre qu'il faut certes de l'argent, mais aussi des hommes, des réflexions, de la réflexion. Il faut clairement aujourd'hui une ligne budgétaire dans son business, en disant, ben voilà, cette ligne budgétaire est dédiée à ma sécurité parce que ça sécurise mes utilisateurs et mes clients, donc ma société.
Selon toi, est-ce que parce que ça s'en vient au Canada, la règle a été approuvée, je pense pas que c'est encore officiellement en place, mais prochainement, ça va être là. Mais il y a beaucoup de discussions dans le sens que ça va peut-être être simple de cacher une vulnérabilité, de ne pas la rapporter s'il y a une attaque. Mais en même temps, les montants, est-ce que ça va être vraiment dissuasif ou tout le monde va dire, bah, 50 000 $ c'est moins cher que si j'avais besoin d'investir. C'est quoi vos idées là-dessus, messieurs?
En France, ça va être 4 % du chiffre d'affaires jusqu'à 20 millions d'euros d'amende. Donc autant dire que ça peut faire réfléchir. Mais ce qui va faire réfléchir aussi, c'est qu'on a oublié, c'est que les pirates, en tout cas ceux qui font du business dans le black market, dans le dark web, de ce genre de base de données, ils vont se faire un malin plaisir maintenant, après les avoir vendus, utilisés, à les diffuser aussi. Et ça, si les entreprises ne font pas gaffe, elles vont adorer se retrouver sur Pastebin ou sur d'autres forums totalement légaux où il y a l'intégralité de leurs clients. Et ça, je suis pas sûr que les clients apprécient, parce que si la CNIL va déposer plainte, il faut se douter que les clients, eux aussi, vont déposer plainte maintenant qu'ils savent que véritablement la loi est avec eux.
Ouais, bon point. Nick, t'avais-tu un point de vue sur ça?
Ben, je connais pas la profondeur de la loi canadienne, fait que je peux pas parler en ce sens-là, mais je pense qu'on n'a pas de mesure au prorata des revenus, donc je pense qu'elle a peut-être un peu moins de dents financières que l'équivalent français.
Mais ce qui est très important, c'est que les entreprises alertent, préviennent. C'est fait dans tous les cas. Elles ont été piratées, elles ont été volées, elles ont été pillées. Mais la priorité, c'est qu'elles alertent leurs clients, qu'elles aient cette honnêteté de dire, bon ben voilà, on a eu une porte qui s'est ouverte dans un coin, ça peut arriver, c'est de l'informatique, on fait tout pour vous corriger. Mais surtout, on vous alerte parce que maintenant, on va vous proposer aussi de vérifier, vous, de votre côté, que les gens qui nous ont volé vos données sont pas en train de les utiliser. Je pense que c'est l'union qui fait la force.
Ben, je pense que c'est un aspect culturel qui va être très difficile, en tout cas du moins pour ce que je connais du contexte canadien, disons, de plein gré se mettre un peu dans l'embarras publiquement.
Ah, ils se mettent publiquement dans l'embarras, mais est-il mieux de se dire honnêtement par un courrier, ben voilà, on a eu un problème, on a tout sécurisé, que de se retrouver soit dans la presse ou alors sur des forums de pirates où tous les mômes ou tous les pirates utilisent, copient, diffusent à droite à gauche et que là, on ne peut strictement plus rien faire?
Non, je suis entièrement d'accord, mais je pense que d'un point de vue organisationnel, il y en a beaucoup qui ont décidé de prendre la chance que ça se fasse jamais connaître et de laisser d'un coup que ça passe en dessous du tapis puis qu'ils s'en sortent gratuitement, comme ça a été largement le cas dans les années précédentes. Là, il y en a beaucoup de compagnies qui n'ont jamais rien divulgué et qu'on n'a jamais su qu'ils s'étaient attaqués ou pas. On a su que 4 ans plus tard, donc il y en a qui prennent peut-être cette chance-là aussi. Là.
Ah ben, il est clair que ça va être celui qui se fera prendre la main dans le pot de confiture. Hein. Mais alors lui, il va franchement manger.
Ouais, ça risque d'être un enjeu assez intéressant. Puis évidemment, on n'a pas le détail exact de comment ça va être installé au Canada. Puis je pense même que chaque province a son mot à dire sur la loi provinciale. Mais j'ai hâte de voir, mais en même temps, si une compagnie décide de cacher les choses... Comme t'explique Damien, que le pirate attend un an et diffuse le tout en ligne, plusieurs risquent de se faire prendre de cette manière-là. Ça peut être un peu dramatique puis assez drôle pour certains pirates à faire. Là.
Ouais, c'est ça, carrément. Tiens, ben, je vais profiter de l'occasion. Tu parlais tout à l'heure des bug bounty. C'est l'Air Force américaine qui avait lancé son bug bounty là il y a quelques semaines pour justement voir un petit peu ce qu'elle avait comme faille. C'est intéressant de voir que l'US Air Force a, comme le Pentagone, donné le nombre de failles qui avaient été découvertes. Hein, c'était du 30 mai au 23 juin 2017, là, donc il n'y a pas très longtemps. 207 failles ont été découvertes chez eux. Donc je trouve aussi que si en plus des entités militaires, judiciaires ou en tout cas des gens qui d'habitude avaient un grand secret qui était de courant, hein, ce qui est un peu logique, qui maintenant admettent qu'ils peuvent avoir des failles et qu'ils peuvent être aidés à corriger, je pense que ça aussi, ça pourrait nous aider.
Oui, tout à fait. Puis il y a le Air Force de la Défense nationale aussi aux États-Unis qui embarque dans ça. Les compagnies de bug bounty essaient de forcer énormément le gouvernement pour qu'il l'embarque dans les programmes. Ça a l'air à fonctionner. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font ça. Ce qui est intéressant de ces bug bounty-là, c'est que c'est les domaines au complet qui sont acceptés. Donc, c'est celui militaire, c'était étoile.mil. Donc, trouver des bugs, c'est même pas si compliqué parce que tu as accès à des milliers de noms de domaines. Donc, du côté des bug hunters, il y avait une opportunité de faire assez d'argent. Puis du côté de ceux qui hostent le programme, ben ça leur permet de se sécuriser assez facilement pour avoir des centaines de personnes qui vont analyser leur service. Donc, c'est un autre domaine qui sort de plus en plus dans les équipes de sécurité de plusieurs entreprises.
Puis ce qui est bien, c'est qu'il communique. Il montre que effectivement, ça peut toucher n'importe qui, une faille, une fuite, un problème. Donc là, maintenant, parler, dire qu'ils font appel aussi à qui veut participer, bah, je trouve ça génial. Ça évite d'être pris pour un idiot si jamais il y avait un piratage ensuite, quoi.
Exact. Mais c'est une très bonne plateforme, pas parfaite, mais c'est un nouveau service qui permet de couvrir énormément de sécurité. Sur un dernier sujet au niveau international, en Italie, drôle mais terrible en même temps.
Oui, mais c'est complètement fou ce qui s'est passé, hein, c'est clair.
Oui, oui, exact.
Ça en est même complètement dingue, parce qu'on se dit, mais c'est quoi, c'est un film de science-fiction, c'est un truc que j'ai vu à la télé, enfin, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, vas-y.
Ça avait l'air d'une blague quand la nouvelle est sortie. Je l'avais pas pris aussi sérieux que ça, mais dès qu'on se met à lire l'histoire... C'est comme tu dis, c'est totalement un film de science-fiction. Une mannequin de 21 ans qui se fait enlever
et ce qui est fou,
pour
c'est
être vendue sur le dark web. Aïe, aïe.
Et ça concerne aussi les parents. Parce que bon, je fais pas mal de conférences dans les écoles, hein, pour les enfants, les ados, etc. Et moi, j'ai deux filles. Donc, je les vois se prendre en photo, faire les belles, etc. Mais là, ce qui s'est passé avec ce jeune mannequin de 21 ans, qui, il faut être très honnête, et pas moche, hein, soyons très clairs, a été invité à faire des photos en Italie. Attention, hein, c'est un mannequin pas professionnel, mais qui commence à être connu, etc. Elle s'est quand même retrouvée dans un sac de sport, dans les mains de mecs qui la vendaient plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les informations sont sorties par la police italienne, sauf que quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'en fait, les monstres là, hein, qui ont tenté de la revendre, ont surtout essayé de faire chanter sa boîte de prod, hein, celle qui s'occupait d'elle pour le mannequinat, en lui demandant de l'argent. Hein, c'est ce qui se passe un peu avec HBO et ces feuilletons qui sont diffusés sur Internet. Si tu payes pas, eh bien je diffuse. Malheureusement pour cette jeune fille, et c'est ça qui est dramatique et terrible, c'est que c'est un être humain là. Hein, on parle pas de film, on parle vraiment d'être humain. Où là aujourd'hui, on enlève quelqu'un, on le met dans un sac de sport et puis on diffuse sur Internet en disant bah voilà, on l'avance si vous nous donnez pas de l'argent. Elle s'en sort plutôt bien, elle n'a été... Alors pardon, hein, je mets des guillemets parce que n'a été, c'est pas terrible, mais elle n'a été prise en charge par ces malfaiteurs qu'une semaine. Mais quelle monstruosité! Et on se dit que la gonzesse a été contactée par Internet, qu'elle a diffusé des photos et que partir de ces photos, elle a aguiché des monstres. Et c'est pour ça qu'il est important quand même de rappeler aux parents, on n'interdit pas à ces mômes de faire des photos, de toute façon ils le feront dans votre dos. Vaut mieux leur donner une structure en disant voilà comment tu dois les faire, soyons plus intelligents, donnons pas trop d'identité. Mais aujourd'hui, arrêtons de nous voiler la face, où on se rend compte aussi que le réseau des réseaux, les réseaux sociaux, peuvent aussi être la porte ouverte à de véritables monstres. Prudence. Donc elle s'en sort bien. Heureusement, ce qui est intéressant, c'est toute la petite histoire qui est apparue derrière avec des groupes, un groupe très mystérieux qui s'appelle le Black Death, avec des mecs des masques qui envoient des courriers qui disent à la personne enlevée, surtout tu dis pas de mal de nous, sinon on te tue. Après, il y a tellement aussi d'histoires racontées autour de ce genre de choses que j'ai bien peur que les gens ne prennent toujours pas ça au sérieux, en tout cas leur identité, ce qu'ils peuvent diffuser sur Internet. Mon identité, on peut me la voler par la photo, par les données que je laisse, mais à première vue, ça peut aussi intéresser des populations qui recherchent des jolies filles. Donc franchement, gardons ça à l'oreille et puis éduquons.
Ouais, puis elle était effectivement très chanceuse. Elle aurait pu finir découpée en morceaux et revendue en pièces. Je veux dire, elle a pogné un peu l'idiot en même temps qui s'est fait prendre par son mauvais abcès et tout, mais... C'est vraiment ridicule comme histoire qu'on en soit rendu là.
C'est ça.
Ah, mais moi, c'est ça. Au moins, la personne s'est fait prendre et est le mannequin de retour.
Le fait que, si vous voulez m'enlever, il n'y a aucun problème, c'est 20 kilos de poutine.
Elle est au Canard, en plus, au Hackfest, donc tu peux venir en novembre.
Ça y est, je rappelle que je viens en novembre vous parler
oui.
Piratage de l'élection, donc ça sera 30 kilos de poutine.
Aïe, aïe. Donc, ça complète le tour de nos nouvelles. Est-ce que quelqu'un avait une autre histoire à nous raconter?
Oui, c'est Vincent. J'en ai une petite.
Yes.
Vous connaissez Marcus Hutchins, le héros du WannaCry du mois de mai dernier?
MalwareTech. Oui, tout à fait.
Ouais, il a été arrêté puis il en court maintenant 40 ans de prison.
C'est très bizarre, cette histoire. C'est très, très bizarre.
Ça, c'est un peu n'importe quoi. La personne qui se fait arrêter à la fin du DevCon pour avoir écrit un malware que toute personne travaillant en reverse engineering sur les malwares a jamais entendu parler, puis tout ça pour 2 000 $. L'effort semble tellement gros pour quelque chose de si petit. C'est très louche.
Mais on se dit aussi que le FBI a voulu faire de la communication, hein, parce qu'ils sont tellement en galère avec le black market et des hackers et des pirates et des inconnus, que je pense que c'était aussi un moyen de communiquer à la nouvelle présidence, par exemple, en disant « Évitez de nous couper nos budgets, regardez, on est utile ».
Oui, effectivement. Mais le jeune homme, en 2014-2015, en fait, il a déjà perpétré un crime, justement, de pour la nature à laquelle ils l'ont arrêté, là, des interceptions d'authentifiants dans des institutions bancaires. Il a écrit, propagé, puis maintenu son malware, son trojan, en fait, qu'il l'appelle, pendant un an, en 2014-2015. Fait que probablement que la police l'avait déjà à l'œil depuis un certain temps. Ou ça leur a fait le fait qu'il soit devenu un héros leur l'a peut-être mis sur le spot. Alors, ils ont étudié le passé du jeune homme, puis ils ont peut-être découvert ce qu'il a fait de cette façon-là. Ça, on le sait pas pour l'instant.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut pas oublier, c'est que depuis un an, il y a énormément d'importants black market qui ont été infiltrés, stoppés, dont toutes les bases de données doivent être décortiquées par le FBI et par tous les services de police du monde. Il y a de fortes chances que les datas que détiennent les forces de l'ordre permettent de regrouper certaines informations datant de plusieurs années et donc de remonter peut-être et potentiellement à des mecs qui, il y a quelques années, préféraient jouer du côté black.
Oui, exact. Puis en même temps, coordonnées, si on peut dire, c'est arrivé en même temps que le raid sur Alphabet, le dernier black market très populaire. Donc, 2-3 semaines avant l'arrestation, ils ont obtenu le serveur et beaucoup de renseignements sur ça. Donc, c'est peut-être en lien avec ça, mais on attend de voir le reste de l'histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait des recherches sur le web. Ça semble louche. En même temps, si la personne a seulement écrit un malware, la comparaison que plusieurs font, c'est que t'as le droit de vendre un fusil, t'es pas responsable de quelqu'un qui va faire un meurtre avec, mais si t'écris un malware, est-ce que t'es responsable, oui ou non? Mais ça dépend de ce qu'il en a fait avec. Je veux dire, s'il l'a vendu à des personnes qui sait qu'ils sont des criminels, là, évidemment, l'implication est différente que s'il l'a simplement écrit et mis sur son blog, comme certains ont trouvé des morceaux du malware sur le blog. Mais ça reste à voir.
Quand on voit les plaintes du Doge, quand on voit du département de la justice, quand on voit ce qui lui est reproché, il parle très clairement aussi de diffusion et de revente. Hein. Je pense que si le FBI et le département de la justice met ça noir sur blanc, c'est qu'à mon avis, il doit avoir une paire de pièces à conviction qui prouvent leur dire. Hein. Sinon, ils risquent d'avoir l'air complètement idiot. Mm-hmm. Et je doute qu'ils veulent faire ça.
J'espère pour eux, mais en même temps, dans les papiers de la police, il y a une autre personne qui est impliquée, que son nom est rayé partout, on ne sait pas c'est qui. Donc, ça peut être autant soit une personne qui n'a pas le droit de nommer, c'est peut-être un mineur ou c'est peut-être simplement le snitch qui a vendu l'autre. Ça reste à voir. Mais tout à fait une histoire qui risque de faire énormément parler, même plus que présentement. Et c'est ça sur une autre ordre d'idée. Ben, bienvenue Vincent, nouveau collaborateur sur le podcast.
Et je suis content de savoir que Vincent est comme moi, et comme il dit, hein, j'en ai une petite.
Non, j'ai pas dit ça.
Et ça sera prouvé au montage, mais bienvenue pour vrai, nouveau collaborateur de Québec, donc dans les prochains podcasts sera plus impliqué. Ça fait quand même le tour de toutes nos nouvelles. Dans les Shameless Plugs ce mois-ci, toujours les inscriptions du Hackfest qui sont ouvertes, nos formations. On a une formation web de offerte Hacker One qui reste, je crois, à quelques places très, très limitées. IoT, mobile et plusieurs autres toujours disponibles. Les places du CTF aussi, je crois qu'il en reste moins d'une trentaine, donc gênez-vous pas pour ça. Pour vous inscrire le plus tôt possible et ne pas attendre la dernière minute. Et finalement, bien, merci tout le monde et on se reparle. Dans quelques semaines, le French Connection passera de une fois par mois à 2 fois par mois. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du mois. Merci Richer, Nick, Damien et Vincent. À la prochaine.
Bisous!
Tolo!
Salut!
À la prochaine!
Like that, you know. And we have to do it all over again.